affinités électives. Une émission proposée par Canal Académie.
Chers amis, bonjour, vous êtes bien à l'écoute de Canal Académie. Aujourd'hui, comme à l'accoutumée, nous allons remplir notre office qui est de diffuser de l'information en profitant des possibilités techniques offertes par une radio diffusée sur Internet. De la sorte, nous allons apporter notre modeste pierre à une révolution beaucoup plus vaste, une révolution de l'information qui a changé notre perception et notre façon d'être au monde, nos façons de consommer, de travailler, de nous organiser en société, de faire de la politique, ont en effet été radicalement transformés, comme d'ailleurs le tissu industriel dans son entier. Des pans entiers de notre activité, jusque la chasse gardée de grandes entreprises ou d'États organisés sur un mode pyramidal, sont devenus l'objet de la concurrence enragée d'une multitude d'organisations organisé justement sous un autre monde. C'est ce changement de paradigme que nous allons explorer aujourd'hui. Nous n'allons pas le faire seuls, nous allons le faire grâce à Jacques Blamont. Monsieur, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Je précise que vous êtes membre de l'Académie des sciences, physicien, ancien élève de l'ENS. Vous avez été professeur à la Sorbonne en 1957, l'année de la mise en orbite du fameux Spoutnik, que cela a eu un véritable impact sur votre carrière, puisqu'à ce moment, vous avez rejoint le programme spatial français, ce qui vous a conduit à être directeur scientifique et technique du CNES, et qu'aujourd'hui encore, vous êtes conseiller bénévole du président du CNES, et je précise tout cela, car cela a une importance, et cela éclairera notre propos. En effet, votre ouvrage ne vise pas seulement à décrire ce nouveau monde, mais à proposer une autre façon de l'organiser, de canaliser les énergies positives mais désordonnées qui s'y manifestent, de façon à en tirer le meilleur. Or, cela s'incarne dans un projet que vous portez conjointement avec le CNES précisément. Ma première question toutefois sera technique, car nous avons la chance d'avoir dans notre studio quelqu'un qui comprend les soubassements techniques et technologiques de cette révolution. Il y a un premier terme qui est utilisé à de nombreuses reprises dans la première partie de votre ouvrage, décrivant précisément les soubassements technologiques de cette révolution, c'est celui de loi de Moore, dont vous nous dites qu'elle régit aujourd'hui l'ensemble de l'évolution du monde. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est cette fameuse loi de Moore ?
La loi de Moore est due à M. Gordon Moore, qui l'a énoncée en 1967 en s'appuyant sur des données qui ne remontaient que jusqu'en 62, 5 ans avant auparavant. M. Moore était professeur à MIT et il est le fondateur d'une très grande boîte industrielle qui s'appelle Intel et qui a été, peut-être est encore, le premier constructeur au monde de composés électroniques. Si je parle de loi de Moore, il faut comprendre que c'est pour essayer de donner une idée des grands facteurs de l'évolution technique du monde. Naturellement, il y a des gens qui diront « mais la loi de Moore, ça n'existe plus » ou « ça ne joue pas un grand rôle ». Moi, j'y crois.
Alors que dit-elle cette loi de Moore ?
Alors, il y a plusieurs énoncés. D'abord, il faut comprendre ce que c'est qu'un composant électronique. Un composant électronique, c'est un petit morceau de silicium qui est capable de fonctionner comme un circuit électrique chargé de certaines fonctions, par exemple amplifier un courant ou le rendre continu alors qu'il était interactif. Bref, c'est une petite chose qui a beaucoup évolué. Elle est à la base de absolument tous les instruments électroniques que vous pouvez manipuler. Elle s'énonce de la manière suivante. Les performances des composants électroniques augmentent avec une constante de temps de 2 ans. Alors je m'explique. Ça signifie que ces performances sont simplement multipliées par 3 en 2 ans. Donc ça, c'est la base. Mais ça peut s'énoncer d'une autre manière. Les prix des composants électroniques diminuent avec une constante de temps de 2 ans. Donc nous avons à la fois des petits systèmes qui agissent sur les courants électriques, dont les performances augmentent et les coûts diminuent. Cette loi énoncée en 1967 est restée valable jusqu'en 2015. Et donc ça signifie que pendant 50 ans, les performances ont augmenté d'un facteur 3 tous les 2 ans. Donc ça fait un très grand facteur. Et ces performances ont amené l'apparition de toute une série d'équipements, d'instruments qui ont entièrement bouleversé notre civilisation. Alors je vais vous donner quelques exemples très simples. L'invention des calculateurs de bureau, le PC, qui est apparu vers 1978 et qui a transformé complètement le travail des ingénieurs et aussi la vie privée. Et le règne des PC se termine. Ils sont remplacés par quelque chose d'autre dont je vais parler. Mais d'autres exemples très importants sont d'abord la télévision. La télévision directe est venue s'imposer à partir de 1990 avec des grands satellites qui, eux, sont des produits de la loi de Moore, et d'ailleurs les récepteurs aussi. Et donc la télévision a changé votre vue, votre vie, et c'est un second exemple, aussi peut-être plus important que celui des calculateurs de bureau. Après ça, je vous citerai une véritable explosion, c'est Internet. Internet, le fruit de la loi de Moore typique, a été, disons, inventé par les militaires américains vers 1970, mais c'est sous le nom de ARPANET. Mais après cela, il y a toute une série d'idées nouvelles qui ont été introduites et qui ont amené à l'Internet que vous connaissez à partir de 1990. Et naturellement, on peut dire que Internet est une nouvelle façon de communiquer. Et c'est là où la loi de Moore est importante, c'est que c'est la communication entre pays, entre villes, entre personnes, qui est transformée complètement. Et donc, ce n'est pas tout. Je vais donner un autre exemple qui est encore plus extraordinaire. En 2007, a été introduit un petit instrument que vous utilisez tous à raison de plusieurs milliards d'utilisateurs, qui s'appelle l'iPhone. L'iPhone, qui est en train de remplacer le PC, est aussi une nouvelle manière de communiquer qui a un impact extraordinaire dans les pays en voie de développement. Par exemple en Afrique, en Inde, en Chine, c'est un instrument de communication qui permet de payer ses achats. Par exemple, une dame qui achète sur le marché de Nairobi des carottes va payer avec son iPhone. À l'heure actuelle, il y a 12% des Africains qui utilisent l'iPhone pour payer leurs achats.
Pour des transactions de tous les jours.
Oui, ça signifie des milliards de gens. Il y a 1 milliard de gens en Afrique. 12%, ça fait pas mal. Et donc, nous sommes là en présence d'une révolution de la communication dans toutes les manifestations. Et cette révolution donc, suit les progrès de Bourg. Alors, on ne peut pas dire que c'est vraiment une loi rigoureuse, c'est simplement une manière de parler, en réalité, qui appelle l'attention sur l'extraordinaire transformation de la communication via l'électronique.
C'est-à-dire que les nouveaux moyens offerts par le surcroît de puissance de ces outils a permis l'émergence de nouvelles applications. Mais alors ce qui est intéressant, c'est que vous nous dites à propos de la loi de Moore qu'elle est devenue en quelque sorte auto-prédictive.
Oui, elle est
auto-réalisatrice.
Oui, parce que à partir de 1990, l'industrie des composants dans le monde s'est unie pour développer les moyens de production en fonction de la loi de Moore. Ça veut dire que c'est la loi de Moore qui a commandé toute la vitesse de développement.
Oui, c'est-à-dire que toutes les entreprises et les gens qui travaillent dans ce secteur se démenaient de façon à ne pas faire mentir la loi de Moore.
Oui, exactement. Et ça veut dire se démener par des gros investissements qui sont dans le, disons, de l'ordre de milliards de dollars. Et enfin, une dernière manifestation tout à fait inattendue et effrayante de la loi de Moore, ce sont les réseaux sociaux. Ça, c'est véritablement l'existence des réseaux sociaux qui est due à des instruments comme l'iPhone, comme la télévision, comme ça, tout ce que j'ai, Internet, comme tout ce que j'ai indiqué, montre une plasticité, une vitesse de renouvellement qui fait penser aux 2 ans. Ce qu'il faut retenir, c'est que le progrès technique qui est lié à la communication avance avec une constante de temps de 2 ans. Constante de temps de 2 ans, ça veut dire un ordre de grandeur en 4-5 ans. Et donc, en 50 ans, ça fait 10 à 12 ordres de grandeur. C'est colossal. Les réseaux sociaux n'existaient pas en 2000. Le plus célèbre, le plus gros de tous, qui est Facebook, a été fondé en 2003. Et il compte aujourd'hui 2 milliards d'affidés. Donc, qui l'utilisent tous les jours, plusieurs fois. Donc là, nous sommes en présence d'un fait de société.
Parce que vous nous dites qu'on aboutit à une connexion universelle, mais non seulement universelle, mais permanente.
Tout à fait, vous avez prononcé le mot essentiel, connexion universelle. C'est ça qu'il faut comprendre, parce que c'est pas facile à comprendre. À l'heure actuelle, vous pouvez... Vous êtes un petit jeune homme, vous faites partie d'un groupe, on en reparlera comme les Fab Labs, vous parlez en permanence à Shenzhen et à San Francisco. En permanence, tous les jours, plusieurs fois. Et donc, mais aussi avec les gens qui habitent dans des ghettos de Mantajoli ou des endroits très proches et pourtant très lointains sociologiquement. Alors, il faut comparer ça, cette vitesse qui, disons, caractérise au fond l'importance de la communication, tout le progrès technique. Ça veut dire que le progrès technique suit ensemble de toutes les activités, suit la loi de Moore. Alors, il faut comparer ça avec ce que j'appellerais l'acceptation de la nouveauté par les populations. Et cette acceptation de la population, cette acceptation de la nouveauté, au fond, elle a aussi une constante de temps. Mais cette constante de temps, au fond, c'est celle d'une génération. En une génération, on va passer d'une certaine vision du monde à une autre. Ça veut dire 30 ans. Donc, il y a entre ce que j'appellerais la constante de temps sociologique de 30 ans et la constante de temps technologique de 2 ans, une déconnexion. Le progrès technique est complètement déconnecté du progrès sociologique. Pour moi, c'est quelque chose qui n'est jamais arrivé. Et donc, on ne le comprend pas. Je crois qu'on ne comprend absolument pas ce que c'est qu'un réseau social. On peut le décrire.
Mais il faut. C'est l'occasion d'expliquer ce que c'est pour de vrai.
Oui, il le faut, mais on ne sait pas quel est l'impact. On ne sait pas comment il évolue quand vous passez comme Facebook de 0 à 2 milliards de connectés. C'est un événement considérable et incompréhensible.
Oui, il est possible qu'on ne comprenne pas encore tous les effets et la profondeur de ceci, mais on sait quand même, par exemple, quel est le business model de Facebook, c'est-à-dire la façon dont il s'organise pour transformer en dollars chacun des clics qu'on effectue sur ce réseau. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cela? Parce que je pense que ça va nous éclairer sur un double mouvement, qui est d'une part un désir de participation et d'existence de la part de la foule, parce que vous dites que dans ce monde interconnecté, un acteur majeur trop souvent oublié, c'est la foule ou la multitude. Et que cette multitude s'exprime à travers ces canaux, mais qu'en même temps, et c'est là tout le paradoxe de la situation, cette foule est prise dans une série de tuyaux qui mènent à des structures qui, elles, sont des carrefours, des centres, et qui, eux, sont sous la maîtrise d'un certain nombre, un petit nombre de personnes. Alors, comment fonctionne Facebook, très précisément?
C'est essentiellement une société de publicité. Ses ressources proviennent de la publicité. Il y a sur le réseau une série d'informations, d'annonces, qui sont plus ou moins payées, plus ou moins payables, et qui sont très diverses. Il peut y avoir enfin, je ne vais pas donner d'exemple parce que tout le monde les connaît. Mais à partir du moment où c'est la publicité qui est le vecteur de l'activité, ça veut dire cette activité commerciale. Et donc, il y a des intérêts énormes. Et la capitalisation, la valeur en bourse de sociétés comme Facebook sont de l'ordre de 1000 milliards. Et donc, nous sommes en présence d'une évolution avec une constante de temps de 2 ans et des acteurs en très grand nombre et des dollars en très grand nombre et des bits en très grand nombre. Et donc, à ce moment-là, il y a des manipulations qui peuvent se faire. En particulier, le public peut être, disons, sollicité sans le savoir par son activité sur les réseaux, qui est enregistrée par les réseaux. Il peut donner des informations sur lui-même. Quand vous utilisez Internet
pour
aller sur Facebook, eh bien, Facebook le sait. Et donc, il y a quelque part des algorithmes qui compilent toutes les informations qui sont contenues dans votre appel, depuis votre identité téléphonique jusqu'à vos désirs, les raisons pour lesquelles vous avez utilisé le réseau. Et ceci compose votre portrait qui est enregistré quelque part. Et quelque part dans les archives de Facebook ou des autres réseaux. Et à ce moment-là, vous pouvez être manipulé. On vous connaît, mais en masse, pas vous tout seul, des milliards de gens. Et donc, à ce moment-là, on peut orienter les marchés. Et pire que ça, on peut orienter vos goûts.
Oui, c'est ça qui est sidérant, c'est que si on fait une comparaison avec le monde, parce qu'on pourrait faire une mauvaise interprétation et croire que finalement, ça ressemble au bon vieux sondage, mais pas du tout, puisque c'est même une logique inverse, d'après ce que vous
expliquez. Oui, tout à fait, ça n'a rien à voir avec ça, un sondage.
C'est le contraire, même.
C'est une collecte d'informations dans un but commercial et manipulatoire.
C'est-à-dire que le sondage, on prenait un panel représentatif, un éventail de gens, et on en tirait une supputation des goûts de telle ou telle population, Ici, on part de la population dans sa diversité et sa multitude, et on arrive à avoir une photographie à la fois de la personne et de l'ensemble.
Exactement.
Mais qui n'est pas une extrapolation, c'est une photographie.
C'est une photographie qui peut être utilisable. Un exemple très, très important et très significatif sont les élections américaines de 2008, où les amis de Barack Obama se sont organisés pour utiliser les réseaux sociaux comme canaux de dissémination d'idées, d'informations, etc. Et ça s'est vu. C'est la raison pour laquelle, finalement, Barack Obama est élu. Et maintenant, nous avons assisté à quelque chose de plus curieux aux élections américaines de 2016, où de l'importante information sur vous, enfin, si vous êtes américain, a été utilisée par la Russie. D'où une... Du moins, c'est ce que dit le dernier rapport de la CIA. Et c'est donc une nouvelle façon de faire de la politique, et c'est-à-dire de vous manipuler naturellement à votre insu dans une direction politique ou culturelle qui est décidée par des intérêts inconnus.
Alors là, en l'espèce, je me fais un peu l'avocat du diable.
Pardon ?
En l'espèce, je vais me faire un petit peu l'avocat du diable. Je veux dire que finalement, ça ne change pas tellement de l'ancien modèle dans lequel des centres puissants agissent pour influer sur les opinions publiques. Disons que tel ou tel journal dans les mains de tel ou tel industriel pourrait somme toute faire la même chose que ce qu'ont fait les amis de Barack Obama ou de Trump selon les élections en utilisant le net. La différence n'est-elle pas que... quelle est la différence alors ? Voilà.
Eh bien, il me semble que la différence est d'abord dans la vitesse. Tout se fait dans la journée. Et ça, vous avez donc une connexion instantanée. Et ça donc, tout ce qui se passe sur le net va se passer très vite et que personne ne peut plus le contrôler. Jadis, dans le système dont vous parlez, on avait le temps de réfléchir, de changer, etc. Maintenant, on n'a plus le temps. Et ça, c'est peut-être la différence la plus importante. Mais une seconde différence, c'est tout simplement le nombre. 2 milliards de gens, c'est beaucoup. Jadis, quand vous aviez 10 000 personnes, c'était une grande réussite. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire 2 milliards ? Personne ne comprend ce que ça veut dire 2 milliards de gens. Et donc... Le paysage est modifié par les chiffres. Et je vous ai dit qu'il était en jeu des milliards de gens, des milliards de bits, des milliards, disons, de connexions. Et donc, on ne comprend plus rien.
Alors, est-ce qu'une autre caractéristique de ce système n'est pas aussi de ce nouveau système, parce que ça forme un système malgré tout, son instabilité ? C'est-à-dire que l'ancien système institutionnel, qu'il soit médiatique ou institutionnel au sens propre, était quelque chose avec une architecture stable, des canaux identifiés, des pouvoirs, des contre-pouvoirs établis et remplissant chacun cet office-là. Or, comme on peut le constater, par exemple, cet automne en France, le moindre mot d'ordre lancé par tel ou tel, un tout petit nombre de personnes, peut mettre en ébullition cette multitude.
Par une personne.
Par une personne, en l'occurrence, pense-t-on, mais qui trouve un certain écho, et on se retrouve, en l'espace de quelques semaines, si le message touche un certain nombre de gens, avec une opinion publique en ébullition totale. C'est un petit peu comme... On se met à bouillir comme le lait, de façon soudaine et instable.
C'est ce qu'on appelle le buzz, c'est-à-dire une rumeur qui se répand sur les réseaux. On ne sait pas comment, on ne sait pas quelle est son origine. Et surtout, le point plus important, peut-être, c'est qu'il n'y a pas de contre-pouvoir. Dans le système ancien dont vous parlez, il y avait, ce qu'on dit en américain, une balance des pouvoirs. Là, il n'y en a plus. Nous sommes dans l'anarchie complète. Il n'y a pas de règles.
Et dans l'instantané, donc dans l'émotion.
Pardon ?
Et dans l'instantané, donc dans l'émotion. On a l'impression que tout se passe toujours au présent dans cet univers.
Oui, c'est ça. Alors, cette rapidité, effectivement, donne une grande importance aux réactions émotionnelles. On n'a pas le temps de réfléchir. On entend sur le net qu'il y a 50 000 personnes qui pensent ça. Alors, ça doit être vrai. Et il n'y a personne pour dire attention.
Il faut donner son avis dans la minute.
Et oui.
Quand je dis dans la minute, c'est bien
et,
moins.
Et en tout cas, ça agit dans la minute. Et donc, vous êtes, personne ordinaire, vous êtes transformé en une minute par un buzz que personne ne comprend et dont personne ne connaît l'origine. Donc, les possibilités de manipulation sont immenses.
Alors là, on a vu la face sombre de ce phénomène, c'est-à-dire on comprend le désarroi des autorités et institutions traditionnelles face à un tel phénomène, puisque c'est quelque chose qui s'auto-organise en permanence, qui est traversé d'ondes qui agitent non seulement la surface de cette multitude, mais même ses tréfonds. Mais il y a aussi une face lumineuse. C'est-à-dire ce que vous nous expliquez dans le livre, c'est que tout cela est aussi un réservoir d'énergie, d'engagement, de souhait de participation.
Oui, c'est ça. C'est que ce que j'ai essayé.
Demande qu'à être utilisé.
Ce que j'ai essayé de décrire dans mon livre, c'est exactement la question que je pose dans mon livre, c'est cette anarchie, cette activité de milliards de gens, est-ce qu'on ne peut pas la canaliser, est-ce qu'on ne peut pas, disons, l'organiser pour des buts, des bons
buts nobles.
Oui, au lieu que ça soit pour l'anarchie et pour le n'importe quoi, est-ce qu'on peut l'organiser pour la mobiliser pour des bonnes causes ? Évidemment, à ce moment-là, j'aime pas ce que cette expression que je viens d'employer, bonne cause. Parce que bon, qu'est-ce que ça veut dire ? Ce qui est bon pour vous n'est peut-être pas bon pour votre voisin. Et donc, pour des causes, est-ce qu'on peut les mobiliser pour des causes ? Alors ça, il faut inventer. Nous sommes en présence, disons, d'un état des lieux très, très actif, très créatif. Mais il s'auto-crée. Et est-ce que ce n'est pas possible d'introduire des facteurs de stabilisation qui permettent de créer des organisations plus ou moins stables et qui permettraient de remplir des tâches ou des fonctions. Alors pour cela, peut-être, on peut prendre au fond l'essentiel de mon livre, qui est ce que j'ai appelé la fédération. Alors c'est une idée qui m'est venue il y a 2 ans à la lecture d'un livre très intelligent de deux journalistes canadiens, livre qui n'est pas tout jeune et a été publié au début des années 2000, et qui s'appelle Wikinomics. Dans ce livre, les auteurs constatent que sur le net, il y a beaucoup de gens inemployés et qui ont pourtant des qualités. Vous avez des milliards de gens là qui ne sont pas dans le système et qui pourraient y rentrer. C'est ça qu'ils ont appelé Wikinomie, faire rentrer des gens dans le système. Alors, donc, à ce moment-là, je me suis posé la question, comment faire ? Les deux journalistes canadiens en restent à des tentatives isolées. Une société, par exemple, une entreprise, dont il donne l'exemple que je trouve très intéressant, une entreprise canadienne, une entreprise minière, était au bord de déposer son bilan. Et alors le patron a pris une initiative tout à fait extraordinaire pour une société minière. Il a mis sur le net les cartes géologiques de son entreprise qui avait une vingtaine de milliers d'hectares au Canada. Et en disant, je suis au bout des rouleaux, je suis en train de couler, voilà mes capacités minières. S'il y a parmi vous des ingénieurs ou des géologues qui peuvent m'aider. Il y aura, si ça marche, 500 000 dollars pour lui. Donc, initiative privée. Est-ce qu'on peut étendre l'initiative privée à quelque chose d'autre qui consisterait à mobiliser, d'une certaine manière, toutes ces bonnes volontés? Alors, le concept que j'ai appelé fédération n'est qu'un concept, de même que la loi de Moore n'est qu'un épisode. Elle va se terminer. Beaucoup de gens disent que la loi de Moore est finie. Non, ça ne veut rien. Parce que si elle ralentit, elle sera sans doute prolongée par de nouvelles pratiques. Et donc, vraisemblablement, ce mouvement-là va se transformer et continuer à exister. Et alors, est-ce que l'on peut inventer des structures sociales qui ne soient pas des initiatives privées? Et là, donc, j'ai pensé à rapprocher deux catégories de structures, pas l'isoler sur le net, mais des structures. Alors, quelles sont-elles? Il y en a donc deux catégories. La première catégorie, c'est ce qu'on appelle une agence d'objectifs, par exemple, c'est-à-dire une administration douée de moyens et financiers, humains et gestionnaires, avec une capacité d'action bien structurée. Je l'appellerais structure verticale. Il y a un chef, puis des sous-chefs, etc. Exemple, le COA en France, le Commissariat à l'énergie atomique, qui est du type même de la structure verticale. Mais je peux aussi citer une structure qui m'a beaucoup intéressé, que j'aurais bien voulu traiter dans mon livre, l'Église catholique. L'Église catholique est une grande structure verticale avec un chef et des ouailles, et entre le chef et les ouailles circule une information. Alors ça, d'un côté, vous avez la structure verticale. Et de l'autre, ça c'est rien de nouveau, mais de l'autre côté, vous avez ce que j'ai appelé une association. Cette association est une structure horizontale, c'est-à-dire qu'elle n'est pas structurée, n'a pas de chef, elle n'a rien que l'existence de ses membres. Et je dis association parce que l'idée consiste à associer des groupes déjà constitués de gens qui sont à leur loisir, qui font ça à leur loisir. Alors, il existe des réseaux d'organisations de ce type, et par exemple, ce qu'on appelle les Fab Labs. Les Fab Labs, c'est un réseau qui a été organisé par un professeur de MIT en 1996, et qui compte à l'heure actuelle des centaines d'adeptes dans tout le monde.
Adeptes, ça veut préciser ce qu'est un Fab Lab, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on y fait?
Oui, alors, un Fab Lab, c'est un groupe d'une centaine de personnes qui communiquent par Internet et qui ont envie de faire, ce mot « faire » est très important, de faire quelque chose en France, par exemple, ensemble. Par exemple, de construire une voiture, de construire un drone, de construire un satellite ensemble, et tout seul, sans la moindre, disons, liaison avec ce qu'on appelle l'establishment, c'est-à-dire le système. Et donc, chaque Fab Lab est très indépendante, très anarchiste, refuse des chefs. Et refuse aucune liaison autre que par Internet. Alors, l'objectif est donc de développer des produits physiques, je vous ai dit, une voiture. Alors, vous avez donc, en France, je crois que, mettons qu'il y en a une soixantaine de Fab Labs qui fonctionnent chacune dans la plus complète indépendance. Alors l'idée est de proposer à ces Fab Labs, à celles qui voudront, de se regrouper dans une, disons, dans une association très large, sans autre lien qu'Internet, et surtout sans autre lien hiérarchique. Alors, la fédération regroupe, disons, mettons 50 ou 30 Fab Labs, c'est-à-dire 2-3 000 personnes, et elle constitue donc une structure horizontale. Alors, l'idée, c'est, la fédération, c'est de connecter la structure horizontale et la structure verticale, mais connecter sans aucun lien hiérarchique, connecter autour de projets. C'est, par exemple, nous imaginons que l'association va lancer un appel d'offres, par exemple pour dire, tiens, nous voulons développer une nouvelle sorte de casserole. Qui est-ce que ça amuse de travailler avec nous pour fabriquer un nouveau type de casserole? Et puis, donc, un des rares liens de l'association auquel je pense, c'est cet appel d'offres. Il faut qu'il y ait une sorte de conseil d'orientation, et surtout pas conseil de direction, mais conseil d'orientation qui s'occupe de lancer les appels d'offres et des juger. Et alors, on peut imaginer qu'à ce moment-là, vous aurez sept Fab Labs qui s'associeront pour un projet casserole. Mais la fédération ne s'arrête pas là. Et maintenant que j'ai un projet casserole au niveau horizontal, je vais faire intervenir la structure verticale. Et la structure verticale, et c'est ça qu'il faut inventer et qui est très difficile, mais nous pensons pouvoir y parvenir, elle va donner des instructions, pas du tout au sens du commandement, mais simplement du know-how, aux fabricants potentiel de casserole pour leur dire voilà comment on fabrique une casserole. Et c'est un projet, il faut une organisation projet, et ça veut dire des règles, des normes, une discipline, un plan, un financement, etc. Est-ce que ça peut être fait dans l'esprit d'anarchie de l'association? C'est ça le pari de la fédération. Donc ça veut dire, au fond, c'est la première fois qu'on essaye de rapprocher des structures administratives, gouvernementales, de la foule. Et d'ailleurs, mon livre, je l'avais appelé « Je suis la foule ». Mais l'éditeur a trouvé que c'était pas sympathique. Mais pourtant, ça...
C'était plus poétique.
Comment ?
C'était plus poétique, en tout cas.
Oui, c'était plus poétique. Moi, ça me plaisait beaucoup. J'allais même jusqu'à un titre qui était « Je la foule ». Et donc, il me semble que l'idée, c'est d'introduire la foule dans notre civilisation ordonnée. Et inversement, d'introduire l'ordre dans la foule. Ça, c'est ça. Alors, nous avons... Je suis un spécialiste de recherche spatiale et je travaille au CNES depuis 50 ans. Et le CNES est en partie mon enfant. Et donc, je pensais surtout, en imaginant la fédération, que la structure verticale serait le CNES et que l'ensemble des activités de la fédération serait spatiale.
Plus ambitieux que les casseroles. C'est plus ambitieux que les casseroles.
Oui, j'ai pris exprès l'idée de casserole pour vous montrer que ça peut être de très bas niveau. Vous pouvez, j'espère, et je l'ai même écrit dans mon livre, j'espère que la fédération conduira un grand projet lunaire, entièrement, Et ça, évidemment, c'est une manière nouvelle de concevoir l'espace.
Et alors, je tiens à préciser, parce que vous ne lancez pas cette idée comme ça, en la sortant d'un chapeau, comme une utopie complète, mais parce qu'il y a des individus fascinés par l'aventure spatiale et qui travaillent à ce type de projet tout seuls, ou des communautés entièrement privées qui, d'ores et déjà, nourrissent ce type de rêve, mais de façon complètement isolée.
Vous avez tout à fait raison. C'est pour ça que le CNES a accepté l'idée de fédération. C'est que nous sommes conscients que la culture spatiale est très répandue parmi les Fab Labs. Il n'y a pas que les Fab Labs, il y a d'autres groupes qu'on appelle les hackers, les makers, il y en a beaucoup. Et donc, parmi tous ces groupes, je ne veux pas dire de jeunes, parce qu'il y a beaucoup de gens adultes là-dedans, ces groupes ont des volontés de se livrer à une activité technique, et en particulier spatiale, parce que l'espace constitue un mythe pour cette génération. Alors, ceci est amplifié par certains patrons américains de réseaux sociaux, comme Zuckerberg, le patron de Facebook. Et ces gens-là ont une culture spatiale, j'appelle ça la culture de Star Trek. Ils se voient sur Star Trek. Et donc, ces gens de mon association spatiale, ils ont envie d'avoir une activité spatiale. Il y en a qui veulent faire lanceur. Il n'y en a pas qu'un, il y en a pas mal. Et c'est de l'illusion de penser que quelque chose d'aussi compliqué qu'un lanceur peut être fabriqué dans un garage. Mais il y a peut-être un moyen de faire fonctionner la fédération sur des grands projets. Et pour cela, il faut essayer. Il faut donc que nous arrivions à avoir des projets. Comme je vous l'ai dit, je souhaite qu'il y ait un grand projet lunaire. Mais il y en a beaucoup d'autres qu'on peut faire. Alors il faut donc que parmi les appels d'offres, on reçoive des idées ambitieuses. Et ces idées ambitieuses, il faudra les financer. Et là, je crois qu'il faut commencer par ce qu'on appelle le crowdfunding. C'est-à-dire que dans les réseaux, il y a beaucoup d'argent qui circule. Et donc, ça sera, à mon avis, tout ça n'est pas un problème de financement. Le financement, surtout dans les affaires spatiales, il est engendré par l'idée et l'enthousiasme qu'elle génère. Et donc, je suis convaincu que si nous avons un grand et beau projet planétaire, il trouvera les dizaines ou centaines de millions qui sont nécessaires dans la foule. C'est ça le pari. Et donc, l'idée, ce serait donc, pour la première fois, l'establishment, le système, s'intéresse à la foule. Et ça veut dire s'intéresser, ça veut dire tente de travailler avec elle pour des résultats concrets. Et ça, c'est ça la nouveauté de la fédération. Mais si l'idée de fédération est née autour de l'espace, et comme vous l'avez dit très justement, grâce à, disons, à la culture spatiale de la jeunesse, on peut imaginer créer des fédérations dans d'autres domaines que l'espace.
Oui, le modèle se décline.
Oui. Alors, nous, qu'est-ce que c'est à l'heure actuelle? En quoi consiste la fédération? Eh bien, il y a une association qui a passé un accord avec la structure verticale CNES. Cette association regroupe une cinquantaine de groupes. Qu'est-ce qu'elle a à l'heure actuelle? Elle s'est fabriquée une charte, c'est-à-dire un fonctionnement. Elle s'est fabriquée une plateforme informatique pour échanger d'abord des idées et ensuite sans doute les moyens de conduire un projet. C'est là où on en est pour l'instant, charte et plateforme. Ce sont déjà des gros morceaux. Et donc, nous allons lancer les appels d'offres maintenant, cette année. Et j'essaie de réfléchir à quel domaine on peut appliquer la notion de fédération. Alors, On peut, il peut y en avoir, dans, disons, partout. Moi, j'ai pensé, et j'espère y parvenir, mais ce n'est pas sûr, j'ai pensé à l'océanographie. L'océanographie, ça ressemble à l'espace, mais l'espace est remplacé par l'océan. Et donc, toutes les velléités, tous les rêves, etc., existent là aussi. Et donc, il faut trouver une structure verticale océanographique qui veuille bien faire le gros effort que le CNES a fait, car il s'agit de très gros efforts pour fabriquer la fédération. Un effort surtout pour convaincre les Fab Labs d'adhérer. Et donc, j'espère qu'il y aura une structure verticale océanographique qui prendra le rôle que le CNES joue dans notre fédération spatiale. Mais ça n'est pas tout. La notion de fédération, ça s'applique à beaucoup de sujets de société. Par exemple, la pollution, par exemple, l'environnement en général. S'il y avait une fédération sur l'environnement, ça changerait le paysage politique de la France. Mais on peut aussi penser à la santé. Il y a déjà des structures qui existent de regroupements de personnes isolées. Par exemple, le Muséum d'histoire naturelle anime depuis 50 ans, 100 ans, des amateurs d'ornithologie pour mettre des bagues. Et ces bagueurs sont importants, ils sont en nombre assez nombreux, assez grands. Et donc on peut imaginer que tout ce qui touche à les diversités naturelles, animales ou végétales, pourrait faire l'objet d'une fédération. J'ai indiqué tout à l'heure que j'ai beaucoup pensé à l'Église catholique, qui pourrait... structurer d'une façon moderne son action autour de ce qu'on pourrait appeler un changement de paradigme et de notre société, et qui serait assez bien placé par sa puissance, de structure verticale.
Oui, car l'idée, au-delà de... Si je comprends bien, votre méthode, c'est de prêcher par l'exemple et la réussite de quelques projets pilotes, mais ensuite de faire en sorte que ce soit copié, que cela essaime dans la société, pour résoudre le problème devenu central et criant d'une difficulté d'articulation entre la multitude et les anciennes organisations.
Et alors, cette articulation, vous m'avez mis le doigt dessus, c'est la partie difficile. C'est là où il faut créer, inventer des relations sociales nouvelles. Et je pense que c'est possible parce qu'il y a d'une part, dans les structures verticales, beaucoup de connaissances, et dans les structures horizontales, beaucoup d'enthousiasme. Et donc, on peut bien imaginer que il y a des esprits créatifs dans des domaines qui ne sont pas du tout le nôtre. Dans notre fédération, nous avons trouvé dans les Fab Labs des gens extraordinaires qui se sont enthousiasmés pour l'idée, qui travaillent beaucoup et qui estiment qu'il faut aller fortement dans cette direction. Je suis convaincu que c'est possible dans d'autres domaines, et je voudrais bien, c'est pour ça que j'écris un livre, pour essayer de répandre l'idée parmi des gens qui ne sont pas du tout spatiaux.
Mais l'idée est lancée en tout cas, et donc à travers cette émission, nous sommes très heureux de la relier, et que donc chacun comprenne bien, il n'est pas nécessaire d'avoir la nostalgie de Star Trek ou des compétences dans le domaine de l'espace pour se joindre à cette idée, que
bien
chacun réfléchisse
contraire
à ses domaines de compétences, à ses envies, puisque le moteur de tout cela, avant tout, c'est l'envie de changer les choses, mais aussi de participer, de contribuer, hein, on est bien d'accord, de contribuer par l'action et pas seulement par un financement comme ça peut se faire dans le crowdfunding. Donc ce qui est demandé, c'est un engagement.
Oui, c'est un engagement, et je crois que beaucoup de gens sont à la recherche d'engagement. Et donc cet enthousiasme, c'est tout à fait wikinomique de le mobiliser pour un but de grande civilisation.
Mais écoutez, je pense que votre appel aura été entendu. C'est souhaitable en tout cas, car tout le monde sent bien que nous sommes à une sorte de fin de cycle, que de nouveaux modèles sont à inventer. Le monde étant darwinien, il se chargera de départager ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas.
C'est ce que j'espère.
Mais en tout cas, il faut tenter pour qu'il se passe quelque chose. Et finalement, on retrouve là le sous-titre de votre livre, car le titre qui était choisi par l'éditeur, Réseau, point d'exclamation, le pari de l'intelligence collective. C'est un pari difficile, mais il est nécessaire, et donc nous avons été très heureux de le
relayer. L'éditeur, c'est CNRS Édition.
Voilà, c'est pour ça que j'invite nos auditeurs qui voudraient poursuivre, mieux comprendre, approfondir la démarche, et pourquoi pas s'y joindre, à se plonger dans Réseau, le pari de l'intelligence collective, par Jacques Blamont, aux éditions du CNRS, qu'on appelle désormais CNRS Édition. Merci beaucoup, monsieur.
C'est moi qui vous remercie.